Vous écoutez
RMC.
Justement, Jean-Louis Tour nous appelle, il est au MetLife. Salut Jean-Louis.
Salut Nico, salut tout le monde. Et oui, les compos sont tombés.
Eh oui, vas-y Jean-Louis.
Ah. Alors celle des Bleus, c'est celle qu'on annonce depuis quelques jours sur RMC. Donc avec Mike Maignan dans les buts, Upamecano, Saliba qui fait son retour après avoir été ménagé contre la Norvège en défense centrale, Lucas Digne à gauche dans l'alternance avec Hernandez, Jules Koundé à droite, au milieu de terrain de Tchouaméni, Rabiot, pas de Manu Koné, Daniel. Et puis devant donc Barcola à gauche, Dembélé à droite, Olise derrière Kylian Mbappé. Et puis alors côté suédois, sachez qu'il y a un grand absent, c'est Isaac Yen, le défenseur central qui avait commencé les trois matchs de Coupe du Monde, qui est blessé aux ischios. Zetterström sera dans les buts, défense à 3 avec Lindelof dans l'axe, Gudmundsson, l'ancien Lillois, à sa gauche et Lagerbilke à sa droite, Strud piston gauche, Svensson de Dortmund piston droit, au milieu de terrain Ayari et Bergvall, le joueur de Tottenham, et le trio connu Alexander Isak, Victor Gyökeres et Anthony Elanga sur le côté droit.
À ne pas confondre Yen avec Gauthier Heyn, hein, Flo, hein. Pas avec ton micro, c'est pas les mêmes joueurs.
Non, pas les mêmes joueurs.
Voilà pour la composition, les gars. On a déjà beaucoup parlé. C'est effectivement, Jean-Louis l'a rappelé, la composition qu'on annonce depuis plus de 48 heures désormais. C'est deux changements par rapport aux 11 hein, imaginés de début de ce mondial. Vous voulez réagir? C'est confirmé. Tout à l'heure, je posais la question à Flo. Daniel, je te posais la question également. Est-ce qu'on peut. Est-ce que la Suède peut faire une Paraguay face à l'équipe de France? Est-ce que tu imagines une configuration comme ça? C'est pas les mêmes profils d'équipe non plus.
Hein. Je n'arrive pas à l'imaginer. Je ne vois pas comment c'est possible. Je sais que les Suédois peuvent défendre. Et je pense que même si Graham Potter a dit qu'il ne voulait pas faire que ça, je pense qu'il sera contraint de faire que ça. Je ne vois pas comment la France va ne pas posséder le ballon. Je ne vois pas comment ils vont pas continuer sur ce qu'ils font depuis le début, à savoir vouloir faire le jeu, vouloir aller de l'avant, presser. Je ne vois pas comment... Si c'est ce scénario qui se met en place, rapidement, les Bleus vont pas faire péter la défense et marquer, et donc ne pas trop éprouver de difficultés dans ce match. Je serais très, très étonné que ça devienne une espèce de bourbier, que les Bleus galèrent, qu'il y ait 0-0 à la mi-temps, qu'on commence à flipper, bref, que ça ressemble à un truc genre Allemagne-Paraguay. Parce qu'en fait, les joueurs que les Français ont devant, les Allemands les ont pas, tout simplement. Les Hollandais les ont pas, tout simplement. On a ce qui se fait de mieux. Donc, je vois pas quelle défense, surtout celle de la Suède, va pouvoir opposer à ces mecs-là.
Le truc, c'est que, je le disais tout à l'heure, je pense que ce que dit Potter dans la deuxième partie de sa conférence hier est intéressant, et j'y crois assez, sur le fait que si tu réfléchis bien et tu te dis on va défendre pendant 90 minutes, ça peut pas tenir. Ils savent qu'ils ont pas les éléments et les arguments défensifs pour. Et à l'inverse, ils ont des arguments offensifs. Donc le seul moyen, et la France a des petites faiblesses éventuellement défensivement, notamment sur les côtés. Donc si t'es coach de l'équipe adverse, que t'es full outsider, que tu n'as aucune pression, je crois que dans le vestiaire, tu ne peux pas dire bon les gars, on va défendre parce qu'on va, ça va être la mort, c'est un cauchemar en face. Je pense qu'ils vont se dire qu'évidemment il faut aller marquer d'une manière ou d'une autre, que tu sois mené ou pas, que tu marques le premier ou pas, il faut aller marquer. Et donc je crois pas du tout au même scénario, en tout cas, que ces équipes sud-américaines qui défendent très très bien à la Grinta et qui sont prêts à le faire pendant 90 minutes. Ils s'attendent évidemment à être sous pression, ils s'attendent à défendre.
Mais ils ont les arguments offensifs.
Je pense qu'ils ont les arguments offensifs, ce qui d'ailleurs, à contrario, peut aussi servir la France, parce qu'évidemment, si cette équipe cherche à marquer, il y aura sans doute un peu plus d'espace, et là, ils peuvent prendre cher. Donc, on est un peu dans ce scénario-là, mais je ne crois pas que ce soit le scénario d'Allemagne-Paraguay, ce sera un autre scénario, ce qui ne veut pas dire qu'il y a toujours la possibilité d'un piège. Mais il y a quand même une sélection supérieure à l'autre.
Alors,
et largement.
Jean-Louis, on parle de possession a priori importante, ce duel pour l'équipe de France. Barcola est là, on en a fait des débats. Certains disent un peu rapidement que Barcola, c'est surtout et uniquement un joueur de profondeur, de verticalité. Il est quand même le choix de Deschamps et Stéphane sur ce match-là.
Oui, oui, bien sûr. Alors, le match qu'il a débuté, c'est celui où il n'a pas été décisif. C'est contre l'Irak, alors que sinon, il a mis une passe D à chaque entrée. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait beaucoup plus mal en fin de match, quand il y a un peu plus d'espace dans cette équipe de France. Mais même sur le match de l'Irak, même s'il n'a pas été décisif, je l'ai trouvé un peu plus tranchant que Désiré Doué, qui, pareil, on le répète, hein, mais dans le profil, propose un peu des choses similaires aux trois autres devant, Olise, Mbappé, pardon, et Dembélé.
Et sincèrement, Barcola, pour moi, on contente un peu trop facilement à cette caractéristique précise. Alors, joueur de champ, de profondeur.
Ouais, quand même.
On le voit sur les petits espaces, sur les blocs bas, capable sur un appui ou deux de faire une différence sur un mètre aussi.
Mais là, dans ce cas-là,
son point fort, c'est quand même la profondeur, Nico.
Oui, mais, si mais sur les phases arrêtées, il est capable également.
Avec le PSG, toute l'année, sur les phases arrêtées, on a eu du mal à le voir quand même.
Si t'as cette idée, si t'as cette idée-là d'être sur les phases arrêtées, tu prends Doué quand même, très franchement. Moi, je pense que.
Il est capable quand même.
Je pense que les Français anticipent quand même le fait que les Suédois vont être obligés de sortir pour aller jouer et de faire valoir leur potentiel offensif, et que sur les demi-transitions que tu vas avoir, Barcola très très vite peut leur mettre le feu. Si Deschamps titularise Barcola, c'est forcément un moment à un autre pour se servir de sa vitesse pour inverser sur la transition. Donc c'est un choix. Après on va voir si le scénario s'y prête, mais moi j'aime bien l'idée. Parce que comme dit Jean-Louis, Doué propose quelque chose qui est un peu similaire aux autres, et en revanche dans l'aspect défensif du poste, les deux font les mêmes efforts, que ce soit Barcola ou Doué sur le côté gauche, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'info de cette compo, c'est l'hémisphère gauche. C'est-à-dire que tu te dis, je reprends en main le côté gauche. Bon, bah offensivement, on sait que c'est partagé Doué Barcola, mais avec Digne derrière, il faut voir aussi ce qui va se passer sur ce côté gauche. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse.
Et d'ailleurs, Flo, j'ajoute un truc là-dessus sur ce côté gauche. Déjà, on a parlé en conférence de presse, la vitesse d'Elanga inquiète légèrement. S'il y a un point d'attention en particulier, c'est Elanga, et c'est pour ça peut-être que ce côté gauche sera amené à plus défendre que les autres fois.
Absolument. Et Barcola le fera. Mais Doué aussi d'ailleurs.
Oui, Doué pourrait le faire aussi. Mais Doué aura sûrement eu temps de jeu aujourd'hui. Bon, tout ça va dépendre aussi du scénario de ce match. Voilà pour le 11 de l'équipe de France qu'on envoie à 17h, heure locale, à 23h, heure française. Jean-Louis, un mot sur les conditions. Tout à l'heure, Arthur Perrault parlait d'une chaleur lourde, humide, ici dans New Jersey.
Oui, alors il fait un peu lourd, bon voilà.
Ça va, c'est pas catastrophique non plus.
On n'est pas en plein soleil, hein. Comme sur France-Sénégal, sur le début, on n'est pas en plein soleil, il y a des nuages, donc effectivement il fait lourd, mais c'est un match à 17h, c'est pas non plus.
Tu vas pas choper une installation comme pour le premier match, quoi, ça va aller. Voilà.
Non, ça va,
j'ai
pris une installation.
Jean-Louis, non, il a l'abri Jean-Louis.
Je remercie Gianni Infantino. Je remercie Gianni Infantino et la FIFA qui nous ont distribué de magnifiques casquettes éviter les insolations.
Et on a le droit de profiter de ce genre de cadeau. Quand on est un journaliste indépendant comme toi, on profite de ça.
Mais ça, t'es entouré de gens intègres, Jean-Louis. Hein.
C'est du propre.
Là, je me suis fait acheter.
C'est ce qui s'appelle un croquage. C'est de l'avantage en nature, monsieur.
Ou des questions de santé publique.
Voilà, merci Jean-Louis. Et pour moi, un croquage.
Tu dois le prévoir, tu ne dois pas
Daniel,
être défendu.
Un croquage, c'est quand un journaliste sollicite quelque chose quand même. D'accord ? C'est ça le croquage.
Ouais.
La vraie démarche du croquage.
D'accord. Ah non, mais là, je suis bloqué. Je ne peux plus dire de mal de la FIFA. Ah, je suis bloqué.
Exactement. Non, mais Jean-Louis, il n'a pas peur de la chaleur et du soleil. Il est aussi. C'est un picard méditerranéen,
ça
Jean-Louis.
Va. Voilà.
Sachez-le. Sachez-le. Jean-Louis, tu seras au commentaire de ce match, bien sûr, assis en intégralité. Tu prends la main dans moins de 6 minutes désormais. Soirée spéciale. France-Suède, 16e de finale de la Coupe du Monde. Le vainqueur de ce match affrontera le Paraguay en 8e de finale. Jean-Louis, à tout à l'heure. On va parier rapidement avant de passer la main à notre cellule, l'équipe de France, au MetLife Stadium. On va dans le 13e arrondissement, Fan Zone Coupe du Monde. Camille Bourrin est sur place. Salut Camille!
Salut Nico, salut à tous. Oui, on est sur les bords de Seine ici à Paris. Il y a petit coucher de soleil, on est en maillot. C'est une soirée d'été, une soirée de Coupe du Monde. Je suis avec Victor. Victor, le match est tard, mais c'est pas grave.
Aucun souci. Déjà, c'était le premier match contre l'Irak. On était rentré très très tard à 4h. Là, c'est un match de Coupe finale. On va se la régaler. Il fait un peu plus frais déjà. Super ambiance. Non, c'est génial. On adore.
Toutes les tables sont prises là, dans cette fan zone. Jean-Baptiste, est-ce que pour toi la Suède c'est une formalité ou t'es un peu stressé? Tout à l'heure tu m'as dit, là on rigole plus trop, si ça se trouve ce soir on n'est plus à la Coupe du Monde.
Ce matin j'étais un petit peu stressé en me disant que c'était peut-être le dernier soir des Bleus, mais j'ai vu la lumière. C'est en face d'une équipe qu'on a pris 5 contre les Pays-Bas. Un grand match de Michael, Lindelof qui prend l'eau, 4-1 pour les Bleus ce soir, formel.
Allez, formel.
Merci. Allez les Bleus!
Ouais, voilà.
Allez les Bleus! Allez Bleus!
On se met en place tout doucement ici sur les quais de Seine. On attend presque 1000 personnes hein, ici dans le 13e arrondissement.
Merci Camille Borin en direct. On te retrouvera bien sûr, hein, notamment à la mi-temps de ce match et dans l'avant-match. Hein. L'ambiance monte en France. Horaire tardif, 23h, heure locale. Heureusement, il n'y aura pas d'orage et d'arrêt a priori sur le MetLife Stadium ici. Donc, ça ne va pas finir à 3h du matin. Quoi.